Vous êtes en direct des programmes du studio Kalungu. Il est 17h à Niamey. Bonsoir à tous. C'est l'heure du journal en français. Au micro, Michel Deji. Les titres de cette édition, le WAQF et sa réglementation au centre d'un séminaire notarial ouvert ce matin à Niamey à l'initiative de la haute autorité de celui-ci. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Un couple de girafes ayant quitté sa zone habituelle de courée a été aperçu cette semaine dans la commune rurale de Karakara. Ces girafes seraient à la recherche du pâturage. Le directeur départemental de l'environnement est à suivre dans un instant. Dans la partie magazine de ce journal, nous parlerons des conséquences des feux de brousse enregistrés dans plusieurs localités du Niger avec le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN, El Hadji El Mansour Mohamed. Bonsoir à tous. Une brève pour commencer. Oumar Bodo, le maire en exercice de la commune rurale de Banobongou, le département du même nom, dans la région de Tillabéri, serait mort le 2 novembre dans un affrontement ayant opposé un groupe armé non identifié à un comité de vigilance entre le village de Dinara et celui d'Adabdab. Selon des sources locales non officielles, plusieurs dizaines de personnes auraient trouvé la mort dans cet affrontement. Le WAQF, un mot arabe qui veut dire se tenir debout ou s'immobiliser, se présente comme un instrument de la finance islamique qui permet d'organiser la solidarité afin de lutter contre la pauvreté. La haute autorité du WAQF du Niger organise aujourd'hui et demain à Niamey un séminaire notarial à l'endroit des notaires sur le règlement du WAQF. Isaac Nuhu Munkeila, directeur de la conformité des affaires juridiques de la haute autorité du WAQF, est au micro de Rafika Attaher.
Dans le domaine de la finance islamique, lorsqu'on parle du WAQF, c'est pour faire cas d'une immobilisation qu'un particulier peut faire ou qu'une autorité peut faire dans le sens d'utiliser le produit de l'immobilisation pour servir une cause noble, selon la volonté de celui qui constitue ce WAQF. S'agissant de la réglementation sur le WAQF et pour donner plein usage à cet instrument dans le cas nigérien, il y a eu un certain nombre de textes qui ont été pris. Le texte fondateur, c'est l'ordonnance 2019-20 du 20 septembre 2019 qui fixe les règles relatives au WAQF au Niger et qui est ratifié par la loi 2019-49 du 30 octobre 2019. L'État a mis en place le cadre juridique, il a mis en place une institution chargée de la gestion des WAQF. De même, cette autorité va superviser les autres types de WAQF qui sont créés par les particuliers et l'État donne l'exemple en constituant le premier fonds WAQF public. C'est un instrument efficace dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
De nos jours, il est fréquent d'observer des comportements inappropriés au cimetière à l'occasion des enterrements, des causeries ou discussions dans un moment de recueillement. En islam, selon Oustaz Haladou Yahya, prédicateur, la distraction et l'insouciance au moment d'un enterrement sont le fruit d'un relâchement moral. Il explique au micro de Mamanada.
Le relâchement des liens sociaux, le relâchement des parents, jusqu'aux liens familiaux et jusqu'au niveau des cimetières. Un mort, on rapproche avec compassion, avec recueillement, sans pleurs, avec la concentration nécessaire, surtout avec les zikrs qu'il faut. Dès l'entrée dans le cimetière, il y a une invocation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la mise à terre dans la tombe, il y a une invocation et après l'enterrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé d'invoquer aux morts parce que tout de suite, le mort enterré va subir des interrogatoires. Or, on constate aujourd'hui, on traite des affaires au téléphone. Or, c'est un endroit de recueillement. C'est un de nôtres qui est parti. On peut le suivre d'un instant à l'autre. Pleurer son sort dans la soumission à Allah, c'est ce qu'il faut.
Un couple de girafes a été aperçu dans la commune rurale de Karakara, département de Djoundjou, région de Dosso. Selon le directeur départemental de l'environnement de la commune, ces girafes ont quitté la zone de Kouré à la recherche du pâturage. Colonel Moussa Moumouni est au micro de Fadel Alou.
Nous avons à notre présence un couple de girafes Elles viennent de Kouré, donc là où elles sont là-bas. Et à cette période, ils font un peu la remontée à la recherche du pâturage des fois, ou bien d'autres ils sont habitués quand même à certaines migrations. Ces genres de migrations, on peut l'observer aussi et dans le département de Gaya, le département de Douchi. Après, ils vont revenir à leur biotope qui est vraiment la zone de Kouré. C'est un patrimoine mondial. La population doit contribuer à la protection de cette espèce. Au niveau de notre département, la commune de Karakara et Djundjou font frontière avec le Nigeria. Donc s'ils tentent de franchir la frontière, la population quand même peut faire un effort pour les rabattre du côté qui n'est pas du côté de la frontière.
Chaque année, le Niger mobilise des ressources financières propres de plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de la Grande Muraille Verte. Il y a aussi l'apport de la communauté internationale dans le cadre de la mobilisation des fonds pour l'atteinte de l'objectif. Colonel Abdou Meicharou, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, explique la partie du Niger concernée. Il est au micro de Rukayatou Abdourahmane.
Chaque année, c'est pas moins de 5 milliards qui sont mis à la disposition du ministère en charge de l'environnement sur les ressources propres. Mais il faut rappeler qu'en janvier 2021 passé, c'est plus de 19 milliards de dollars qui ont été plaidés par l'ensemble des barres de fonds. Toujours dans le même sens, il y a eu une initiative qui a été mise en place par le secrétariat exécutif de la Convention de lutte contre la désertification pour suivre ces financements-là. Cette initiative accélérateur a déposé un rapport le mois passé. Ici au Niger, on parle de 1300 millions de dollars. Et tout ça, là, c'est des projets effectifs qui ont eu lieu déjà dans cette initiative-là de 2010 jusqu'à aujourd'hui. La zone d'intervention de la Grande Muraille, c'est l'ensemble de toutes les communes qui sont frontalières avec le Nigeria, jusqu'au niveau de ce qu'on appelait Izouette 50 mm au nord. Donc la zone désertique, en gros la région d'Agadez.
La saison froide s'installe progressivement au Niger. C'est une période où l'harmattan souffle avec pour corollaire la poussière et le rhume. Une occasion saisie par les responsables sanitaires pour prodiguer des conseils d'usage pour les couches vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Dr Mousse Ali, médecin à Tillabéri, invite à la prévention des maladies. Il est au micro de Boubacar Oumogou.
En cette période, il y a d'abord le vent et il y a aussi le froid. Donc, pour pouvoir se protéger d'abord contre le vent, dans cette période, pour se déplacer, il faut porter des vêtements lourds, avoir du cache-nez, parce qu'il faut savoir aussi que dans le vent, il y a de la poussière. Donc, il faut se protéger contre cette poussière, capable d'indiquer des maladies virales, notamment les angines ou bien ce qu'on appelle couramment le rhume. Et ceux qui roulent en moto, porter des casques, des lunettes, si possible, le turban courant, protéger les oreilles aussi, les orifices où le vent peut pénétrer. Il faut protéger les enfants, notamment contre l'eau en cette période. Éviter de mettre la climatisation à fond. Lave les enfants avec de l'eau chaude et leur faire porter des habits lourds, qui sont les conseils à donner surtout aux mamans et de façon générale aux parents. Et pour ceux qui ont les moyens, je voudrais ajouter et utiliser le chauffage quand il fait frais dehors.
La promotrice du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, FONAF, et chef de l'atelier Adeline Création, Hadiza Amadou Maïga, a reçu hier à Ouagadougou le trophée de l'ambassadeur des PME de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UOMOA. Cette distinction est attribuée à l'occasion du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises. Le 31 mars 2021, la Cominac, principal sponsor du club de football Akokana d'Arlit, a fermé sa mine d'exploitation d'uranium à Arlit. Un coup dur pour ce club de foot, mais d'après son président délégué, des dispositions ont été prises par la Cominac pour sponsoriser l'équipe durant la période de réaménagement du site qui durera des années. Boukar Sanda, président délégué du club Akokana, au micro de Ousmane Oumogo.
Akokana FC étant un des membres de la Cominac, qui est sponsorisé principalement par Cominac, et aura du mal à survivre à la situation, c'est vrai, mais la Cominac a déjà pris des dispositions pour le suivi de l'Akokana en tant que club de football. Il sera sponsorisé comme d'habitude pendant toute la période du RDS. Le RDS peut durer 5 ans, 6 ans, on ne sait pas. Mais on a mis un système de pouvoir survivre à l'après-Cominac pour le club d'Akokana et la jeunesse d'Akokan en général. Un système donc de recherche de partenaires autres que Cominac, tels que Orano, qui nous a aidé cette année déjà de 7 500 000. Comme vous savez, on a quitté la Ligue nationale pour la Super League. On est en train de reconstruire l'équipe.
Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations fera le tour de certains pays africains avant le début de celle-ci prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. À cette occasion, le trophée va faire cette année le tour de 24 pays du continent africain qualifiés pour la prochaine CAN. Abdoulmalik Koudizé, officier média de la Confédération africaine de football, explique au micro de Salamatou Kadri.
C'est une initiative de la Confédération africaine de football, partenariat avec le sponsor officiel de la CAN, qui est Total Energy. Donc c'est à l'initiative donc, de ces deux entités-là que le trophée fait le tour du continent. Il a été donné aux 24 pays qualifiés d'avoir le privilège de recevoir le trophée, donc de permettre aux supporters des 24 pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun d'avoir l'opportunité de voir le trophée ainsi que de faire des photos. Donc dans les capitales de ces pays-là, le trophée circule, a circulé et circulera dans les grandes artères de ces grandes capitales dont les pays sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, il ne viendra pas au Niger pour cette fois, parce que le Niger n'est pas qualifié pour la prochaine CAN. On espère que lorsque le Niger sera qualifié pour les éditions à venir, qu'on Niamey puisse avoir le privilège de recevoir le trophée.
Parti Magazine à présent au Niger, dans les mois de septembre et octobre 2021, plusieurs localités des zones pastorales des régions d'Agadez, Tawa, Maradi et Zander ont connu des feux de brousse, une situation qui va compliquer davantage l'alimentation du cheptel selon le secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, CAPAN. LAG El Mansour Mohamed est interrogé par Mokta Hamadou.
Au début de la campagne hivernale, les éleveurs pasteurs ont espéré avoir quand même une bonne campagne pastorale. Mais à l'épreuve des faits, effectivement, il y a eu des aléas, parfois des interruptions de pluie. Et viennent s'ajouter cette série de feux de brousse qui ont fait des ravages dans la zone pastorale. Quand vous prenez la région d'Ingal, vous prenez la région d'Abalak, Tchantabaraden, Tanout, Nord-Bermo, où récemment, le 25 au 26 octobre, plus de 17 000 hectares ont été décimés et plusieurs têtes de bétail ont été consumées. Imaginez, Abalak, c'est plus de 112 000 hectares. Et c'est des feux de brousse qui ont été observés dans la zone principalement de l'élevage. Et cela, de mon point de vue, va aggraver déjà le déficit fourrager que nous avons.
Elhadj El Mansour Mohamed, comment faire pour compenser ce déficit?
Il faut de l'anticipation. Il faut que les pouvoirs publics prennent le devant en rendant disponible pendant la période crique l'aliment pour les hommes et aussi l'aliment bétail. Nous devrons anticiper pour que partout où il y a cette concentration d'animaux, des éleveurs pasteurs, qu'il y ait des stocks conséquents qui pourraient réduire les souffrances de ces éleveurs pasteurs-là. Il ne faudrait pas que les soutiens viennent en retard.
Est-ce que l'État peut compenser ces déficits-là?
L'État et ses partenaires peuvent soulager les souffrances des populations en pareille conséquence. L'État peut le faire. Il suffit qu'on suive les instructions du président de la République qui a pris l'engagement d'anticiper sur cette question et de rendre disponible l'aliment bétail et les vivres là où il faut. L'autre chose, c'est que nous ne devons plus aujourd'hui compter sur les pluies. Il faut innover. C'est pour qu'il faut aller vers la culture fourragère.
Comment faisant?
En aménageant des terres, nous les avons. Nous avons le fleuve, nous avons de l'eau souterraine, nous avons des terres très riches. C'est possible. Il faudrait qu'il y ait de la volonté et un peu d'engagement pour qu'on puisse produire l'alimentation du cheptel. Cela va nous éviter ces commandes de l'extérieur à coût de milliards.
Vous parlez d'une production hors saison?
Oui, de la production hors saison, c'est possible. Ne pas compter sur une production.
Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.